La philo-lophie, un voyage intérieur
et extérieur
d'Aristote à Zarathoustra.
B comme Borges,
Bergson,
Bachelard, Bernanos,
Baudrillard,
De Beauvoir,
Bruno, Butler,
Bettelheim,
Diogo,
Suleiman, Bachir, Diagne,
Boès,
Boccace,
Bertolucci,
Babar,
Beckett.
B comme bonheur, un bonheur étranger. Il nous aura fallu bâtir un langage pour aller chercher notre âme. De la poésie mythique en passant par les tragiques grecs jusqu'à Apollinaire, Baudelaire, Rimbaud ou Prévert, les poèmes religieux, la longue architecture de la littérature étendue sur des siècles en toutes les langues, nous l'a procuré.
Très tôt, l'enfant peut s'interroger sur ce mot « âme ». Et tout au long de notre vie, c'est un mot vers lequel on revient, soit d'un point de vue religieux, soit d'un point de vue plus détaché du sens, de la spiritualité qu'on peut donner aux choses. Or, il est un endroit dans la lecture, l'écoute des poèmes et la vie qu'on entretient avec la littérature, où l'on sent bien que quelque chose se construit en soi, qui a à voir à la fois avec l'essence des choses et avec la manière dont nous allons au monde et dont nous heurtons à lui, l'éprouvons, le traversons. Ainsi, parfois, je note des phrases. Je décide d'apprendre un poème, je me fredonne une chanson. Et sans toujours m'en rendre compte, je sens bien qu'au fond de moi, ça participe de mon regard, de ma présence et de mes relations.
Les babillements du bébé sont prémices à cette étendue qui s'ouvre en nous pour en accueillir les morceaux liés. Des premiers mots aux premières phrases, nous construisons le lieu où la quête élabore ses sens et sa trajectoire. Pour se trouver, que quelque chose prétende à l'existence, pour moi humain, être de parole, le monde n'a alors de sens qu'avec la participation de ma pensée, si je me trouve à parcourir le chemin, tente de le parcourir. Me trouver, ou déjà me chercher, donne un sens au monde, à cette chose qui est autour et dans laquelle je suis plongé. Moi, si petit, je peux donner un sens à quelque chose de si grand. Le monde s'éclaire, prend forme du dedans de moi, de cet appel, cet effort transmis à le formuler. Mais pas une fois pour toutes. C'est un monde qui s'élabore en relation.
Ainsi comme il en est du mot « âme », il en va pour tous les mots, tout au long de la vie. Et cette relation qui donne un sens de plus en plus étendu à tous les mots, c'est aussi celle que nous entretenons avec les autres de vive voix, par l'écoute que nous leur prêtons, de conversation en conversation. C'est une continuité. Tout mot trouve à se nourrir de soi et de l'autre au moment où je suis en situation de prendre parole. Ainsi, dans une réunion ou dans une simple conversation, je peux réaliser tout à coup qu'un mot prend un sens nouveau, s'élargit, s'approfondit, sonne autrement. Et il s'ajoute à la liste de tous ceux qui constituent mon âme d'être parlant.
Aussi, celles et ceux à qui le difficile épanouissement du langage est fermé, rendu inenvisageable, parviennent-ils difficilement à formuler un sens à ce monde ? Ils se cognent à lui. Quelque chose d'inabouti, d'inconstructible, ne les emmène pas suffisamment loin et leur interdit l'exploration. Mais, en même temps, même privé, volontairement ou pas, du voyage, quelque chose à l'intérieur persiste et dit que ça existe. Et participe par sa présence insistante de notre souffrance même, notre colère, notre rejet ou notre nostalgie du voyage.
C'est un peu comme si, constatant que je n'avance pas, je réalisais au même instant qu'un voyage était possible, comme si je l'avais déjà fait. On retrouve là la notion d'éternel retour dont parle Nietzsche dans son œuvre. Elle a donné lieu à des incompréhensions, des interprétations variées. Personnellement, j'y discerne le fait suivant. Nous vivons tous avec l'intuition qu'un voyage est possible parce que, en quelque sorte, nous l'aurions déjà fait. Que nous l'ayons déjà fait ou pas, importe peu. Mais la sensation que notre présence au monde ne date pas d'aujourd'hui, mais est engendrée par quelque chose qui nous relie au plus profond de nous-mêmes, à cette aventure, donne un sens au fait de persister ou de s'arrêter, de formuler les choses comme elles se présentent à nous. La fraîcheur du regard d'un enfant, de ses paroles qui nous étonnent, qui nous surprennent, qui nous réjouissent, tient peut-être à ceci qu'une connaissance, antérieure, lui permet à la fois d'être étonné de tout ce qui est et en même temps de vivre avec une grande familiarité sa présence à ce qui constitue le monde environnant, qui est pour lui comme un paradis. Et ce paradis de la surprise et de la familiarité avec les choses qui m'entourent, en même temps, à côté, simultanément, prépare une sorte d'enfer. L'enfer de tout ce que j'aurai à surmonter et qui échappe à ma langue, à ma compréhension, qui échappe à la manière dont je peux me l'approprier.
Alors, pour tenir dans cet enfer où l'insuffisance devient un marquage dont on subit la honte plus ou moins masquée, il faut soit contenir, soit détruire en les retournant contre soi les moyens du langage. S'en distraire, le distraire, l'expulser ou l'épuiser. Ou, si le manque, au contraire, vient renforcer et accroître le désir, se battre et s'acharner à les retrouver, à les recréer ces moyens. Or, souvent, sur ce chemin escarpé, les rencontres adviennent et sont décisives, qui relancent notre être et notre pensée.
Où suis-je accueilli? À quel moment est-ce que le sentiment d'être pleinement accueilli contribue à ma quête de bonheur? Me fait me dire à moi-même, je suis heureux. Cela passe par tout un processus de questions qui ne nous lâche jamais. C'est dans les relations que nous entretenons ou même celles auxquelles nous décidons de mettre fin que le questionnement est relancé sans cesse. C'est pourquoi nous sommes toujours en quête d'amis, de proches, avec lesquels voir autrement, comprendre autrement, s'approcher autrement de ce qui nous entoure. Ces relations successives, toutes entre elles, et pour chacun de nous, constituent ce qu'on pourrait appeler la cité intérieure. Cette cité dont les Grecs parlent tant se trouve peut-être finalement en nous-mêmes, intemporelle. Elle est là au moment où nous pouvons dire « je suis heureux, pleinement heureux ». Pas seulement d'une manière brouillonne ou indistincte, mais parfois très précisément, dans une conversation, auprès d'un ami, même dans la contradiction. Parce qu'à ce moment-là, je fais accueil et je suis accueilli. Au lieu d'une compréhension profonde, élargie, pleinement satisfaisante. Mais entre moi et cette compréhension lumineuse, il y a le même écart qu'entre la cité intérieure et la société agitée, mouvementée, violente et sans pitié pour moi. Cet écart, on pourrait le nommer le labyrinthe du langage. Ainsi, entre les moments où la cité se révèle en nous-mêmes, nous errons. Nous errons aux abords de la ville, de la cité symbolique, désignée chez les Grecs anciens à travers la ville de Thèbes. Or, à l'entrée de cette ville se tient un être qui interroge, à moitié monstre et animal, à moitié animal et humain, le sphinx ou la sphinge.
La sphinx qui interroge. Se trouver en passe par le langage et bien évidemment par l'autre. L'autre dans le labyrinthe du monde. L'autre multiplie mes moyens dans le langage et donc les pistes possibles et envisageables pour me trouver et donner du sens. Cet autre, il est bien sûr présent dans les contes, les mythes et légendes. Il est bon ou mauvais, il provoque, il interroge, il renseigne, il aide à trouver, à chercher, ou il s'y oppose. Il est menace, défi, adversaire, ami, obstacle ou compagnon.
Énigmatique compagnon. Lorsque je me présente à l'entrée de la ville, le sphinx me scrute et m'interroge. C'est un jeu. Quand Œdipe arrive à l'entrée de Thèbes, il répond assez simplement aux questions du sphinx qui le laisse entrer. Mais le sphinx n'est pas seulement une bête qui interroge, un monstre qui menace, celui qui s'égarerait dans sa réponse. C'est d'abord un partenaire de jeu, essentiel à l'élaboration du langage. On retrouve ici la figure de l'enfant. Le jeu avec les mots, le jeu avec le monde, le jeu du jeu qui est soi. Cet appétit de jouer, voilà ce qui entretient le moteur du langage. Quel dommage qu'avec le temps, cet appétit s'épuise. Comme nous devenons sérieux. Et cependant, parfois, nous nous retrouvons à jouer comme des enfants, à l'endroit même où nous partions à la découverte du monde. Et quand nous nous remettons à jouer, nous découvrons simultanément que pour relancer ce jeu, retrouver notre enfant, il nous faut mourir. Mourir successivement et plusieurs fois dans une même vie. Mourir successivement à certains endroits du labyrinthe et reprendre corps et vie à l'entrée de la cité où le sphinx ou la sphinge perpétuellement nous scrute et nous interroge.
Dans tous les cas, il pose question. C'est ainsi que se renouvelle la quête et le sens qui ne peut être trouvé ni fixé une fois pour toutes. La figure du Minotaure dans le labyrinthe se présente sur ce cheminement comme l'adversaire intérieur à affronter sans perdre le fil. Le risque encouru est bien celui de la conquête d'une pensée personnelle que rien ne peut remplacer ni soustraire. Sait-on combien ce passage du sens trouvé au sens renouvelé est difficile à considérer, et comme il est un endroit de souffrance, aveugle et tenace? Combien de fois pour nous tous, outillés ou pas, riches de mots ou pauvres de tous leurs possibles, Notre présence au monde perd-elle sa vigueur, celle que nous avions réussi à constituer? Et cela sans presque que nous nous en rendions compte. Combien de fois cela arrive, et l'inverse aussi est vrai, combien de fois le sens revient-il presque sans qu'on s'en aperçoive? Ça va, ça vient, dans un insupportable balancement, le plus tranchant peut-être de l'expérience humaine.
C'est qu'en affrontant le Minotaure, nous l'avons compris, on s'affronte soi-même. Mais, heureusement, le Minotaure nous prête sa figure pour que nous ne tremblions pas d'avoir à nous combattre et à nous mettre à mort. Les morts successives du Minotaure sont les morts successives de nous-mêmes, chaque fois que nous nous sommes égarés, aventurés au cœur du labyrinthe. Alors, comment renaissons-nous après chacun de ces affrontements? Et comment renaissons-nous dans le cas où le Minotaure l'a emporté? De quelle manière s'en rendre compte? Peut-être à travers un sentiment de malaise, chaque fois que nous perdons un peu de nous-mêmes, abandonnant dans le labyrinthe, au lieu de l'affrontement, quelque chose de précieux, qui n'est cependant pas perdu. On pourrait se réjouir que le labyrinthe, justement, implique l'existence, parce qu'à ce moment-là, il est comme une protection de ce que nous avons entreposé à l'intérieur, au moment où nous avons fléchi. La philosophie, un abécédaire en haute
et basse fidélité,
texte
et commentaire de texte,
Arnaud Gosselin.